qu'avec Anem. Bonjour à tous, merci d'écouter ce 17e numéro de Cave Canem, enregistré à Paris depuis les studios Cobuzz. Avant de passer à la composition des équipes et à la description détaillée de mes invités, voici le sommaire. Nous nous pencherons aujourd'hui sur l'Italiana in Algeri d'Alberto Zeda, sur le Stabat Mater de Rossini par Antonio Pappano et sur sa brochette de célébrité, sur le dernier disque de Beyoun Meta et sur le récital français de l'exquise Marie-Nicole Lemieux. Autour de moi aujourd'hui, on retrouve des invités de marque, Mehdi Madavi, la Matahari de Diapason, Sylvain Faure, le baladurien radical de l'avenue Georges V, Jean-Philippe Thiellet du Conseil d'État, de Forum Opéra, de Sciences Po et de l'Université Pierre Mauroy de Lille. Et enfin, notre consultant, le Cary Grant de la Clé de Fa, le Rudolf Valentino des Bouffes du Nord, le Justin Bieber bordelais, j'ai nommé Thomas Delier. Bonjour à tous, messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous passons immédiatement et sans délai au premier disque. Il s'agit de l'Italiana in Algeri.
Non, in Algeri, Camille. Italiana in Algeri, l'accent tonique sur la première.
Excuse-moi Jean-Philippe, je ne manquerai pas de te reprendre plus tard si tu fais des fautes en flamand. Donc, l'Italiana in Algeri de Rossini, dirigé par le bouillonnant Alberto Zeda, surnommé Maître Yoda par ses admirateurs d'ailleurs, c'est le grand timonier de la Renaissance rossinienne, ce vieillard pétillant qui jadis se passionna pour Chelsea, Nono et Berio, milite depuis plus de 30 ans pour un Rossini rendu à son intellectualisme austère. Il voit dans ses partitions plus que le désordre organisé décrété par Stendhal, mais une figure annonciatrice des grands surréalistes. Hélas, voilà aussi 30 ans que les grandes maisons privent Zeda de leur orchestre superlatif et de leur distribution de stars. C'est donc face à d'improbables ensembles slaves et généralement entourés de sympathiques second couteaux que Zeda professe. Cette italienne à Alger, plus qu'honorablement distribuée, échappera-t-elle à la logique ? On écoute Ok Muso.
Maltrattata dalla sorte, condannata al ritardo.
C'était donc Ok Muso de l'italienne à Alger. Et vu que Jean-Philippe semble avoir un avis sur la question, on va se tourner vers lui. Jean-Philippe, qu'as-tu pensé de ce très beau disque ?
Eh ben, qu'il était très beau. Non, de Rossini au menu, on est évidemment gâtés. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu une intégrale Rossini qui se tenait aussi bien. Donc, ce qui me frappe, je trouve, c'est la cohérence de la distribution, de la démarche, comme tu l'as dit. C'est une bonne photographie de l'état des lieux du chant rossinien aujourd'hui. Alors certes, on n'est plus à la période de la Rossini Renaissance, mais finalement, qu'est-ce que la Rossini Renaissance nous a donné comme belles intégrales de l'italienne à Alger ? Finalement, bon, il y avait quelques stars, évidemment, il y a la Horn, la Terrani, etc. Mais là, on a un produit qui est celui que nous donne ce début de 21e siècle, avec des chanteurs qui donnent le change. Alors certes, ici ou là, on pourra trouver mieux en les prenant individuellement. Même Brownlee, je trouve, alors ça dépend peut-être de la prise de son, mais en live, en tout cas à Paris, puisqu'il a chanté l'Indoor l'an dernier, m'avait fait plutôt meilleure impression. Alors est-ce que c'est du progrès, parce que c'est un chanteur qui est sur une courbe ascendante, est-ce que c'est la prise de son, j'en sais rien. Mais au total, sous la baguette de Zed, qui connaît ça sous le bout des doigts et qui fait bien ressortir tel ou tel passage ou tel trait d'écriture, je trouve que c'est une très belle version. Donc au total, plutôt qu'en parler, j'invite tout le monde à l'écouter en réalité. Alors certes, on pourra dire Regazzo, lui il n'est plus tout à fait sur une courbe ascendante, mais bon, on voit aussi qu'à l'Opéra de Paris, grande scène du monde s'il en est, il y avait plutôt moins bien, à la fois dans Isabella, à la fois dans Mustapha. Donc une très belle version qui moi, m'a donné beaucoup de plaisir.
Nombreux auditeurs d'Outre-Quiévrain, pourrais-tu rappeler qui faisait la distribution à Paris ?
Eh bien c'était Vivica Genot en piètre état qui chantait Isabella, donc Brownlee en Lindoro et Marco Vinco, extrêmement décevant, en Mustapha. Il y avait Corbelli, formidable, bon, et puis cette vieille production un peu bon, qu'il faudrait peut-être songer à déclasser de d'Andrei Serban. Et au total, une soirée qui était assez médiocre. On n'est pas gâté avec Rossini à Paris en ce moment. Hein, donc,
Mehdi, toi qui jadis fus aussi esclave à Alger.
Alors moi je ne suis pas aussi enthousiaste malheureusement que notre ami Jean-Philippe.
On n'a rien dit de Madame Pizzaiolo d'ailleurs.
Oui d'ailleurs je voulais... Alors justement, Pizzolatto c'est une espèce de bon compromis entre un mezzo aigu et un mezzo grave, mais on ne sait pas trop où ça se situe.
Alors, au milieu.
Je trouve que le timbre est absolument sans intérêt, la voix a tendance à quand même pas mal bouger. Et puis bon, ce qu'elle fait, c'est pas franchement intéressant. Moi, je trouvais que on peut dire tout ce qu'on veut de Vivica Genot, et je suis le premier à ne pas aimer son timbre. Je trouve qu'elle avait une forme de chic qui manque complètement à Madame Pizzolatto. Il est temps que Monsieur Regazzo se mette à chanter les Barbons, parce que c'est vraiment pour ça que sa voix à présent est faite. Il chante plus, il maugrait. Bon, moi j'ai été quand même assez content d'entendre Brownlee, mais c'est vrai qu'il était plus brillant peut-être à Paris. Je trouve que c'est pas une. Il y a une belle sonorité dans l'orchestre, mais je trouve pas que ça pétille particulièrement. Enfin, voilà, j'ai été assez indifférent à cet enregistrement finalement.
Thomas Delien, un petit mot pour sauver tes collègues.
Non, mais moi, je voulais surtout parler de Zeda, justement. C'est sa lecture qui m'intéressait en écoutant ce disque. Et il m'a fait penser à un autre chef qui a un peu la même réputation dans un autre répertoire, c'est Alan Curtis. C'est-à-dire, c'est le spécialiste d'un répertoire. Et en même temps, toutes les intégrales qu'ils font ne sont jamais complètement satisfaisantes. Et pourtant, tous les chefs qui font des disques a priori supérieurs les reconnaissent comme les spécialistes incontestables de ce répertoire.
C'est un live, ça. C'est pas
oui,
le
oui.
Moyen de...
Alors, c'est un live, c'est un orchestre qui n'est pas le meilleur orchestre du monde. Mais en fait, j'aime bien l'idée de pulsation que Zeda donne dans cette version. C'est-à-dire qu'on sent que la pulsation est très maîtrisée. Et en même temps, je pense que par moments, il est un peu pris au piège de cette pulsation, c'est-à-dire qu'il se refuse la liberté de cette pulsation, notamment dans les finales, dans l'introduction du premier acte et le final du premier acte, où c'est une espèce de crescendo comme ça qui s'accélère. Il se retrouve sur des strettes qui sont déjà prises à fond de train dès le début, et du coup, il se prive de la progression de ces morceaux-là. Et au niveau de l'énergie de l'ensemble du spectacle, du concert, ça pêche un petit peu. Je pense que c'est surtout ça qui affaiblit le disque, parce que sinon l'équipe vocale, moi je la trouve assez convaincante. Bon, c'est sûr que c'est un concert, c'est du live aussi pour les chanteurs, et moi Regazzo m'a plutôt agréablement surpris parce que je l'avais entendu en Leporello au Théâtre des Champs-Élysées il y a quelques années, où j'avais trouvé ça justement très marmonné et assez caricatural, et là je trouvais qu'il avait quand même une sacrée classe vocalement dans ce rôle hein, de basse colorature qui est pas... quand même pas facile.
C'est vrai qu'on a entendu bien pire dans le rôle.
Oui, carrément. Et puis la mezzo qui chante Isabella, donc Pizzolatto, c'est effectivement une mezzo, c'est plutôt une Rosine, une Cenerentola qu'une vraie Isabella, mais on la sent un petit peu à court de grave, d'assise surtout dans le grave, notamment dans le duo, là, Okemuso qu'on a entendu, c'était... c'est assez flagrant, mais sinon moi j'aime bien la couleur et je trouve que justement elle évite certains effets même assez vulgaires que se permettait Horn par exemple, pour donner un personnage assez, qui a assez pas mal de classe je trouve, moi donc je défendrais plutôt, et Brownlee aussi très bien.
Avec tous les airs.
Oui. Alors Brownlee, oui, moi je l'ai entendu au Met l'année dernière dans Armida, et je pense que c'est une voix. Enfin moi, ce que
tu chantais à ses côtés, bien sûr.
Oui, bien sûr. J'ai entendu, c'est-à-dire qu'il y a 6 ténors rossiniens dans Armida. Donc
tu assumais deux rôles de ténor rossinien
là-dedans.
Un baryton égale 2 ténors, c'est bien connu.
Exactement.
Mais c'est une voix qui explose dans l'aigu Brownlee, quoi. Donc en live, c'est très brillant. Et là. Justement, je trouve que ça homogénéise un petit peu la voix et j'étais, moi, très convaincu par tout l'ensemble de la tessiture. Je trouve très, très beau, avec un timbre très agréable.
Tout à fait. Alors, Sylvain, as-tu été charmé par Madame Pizzolatto ?
Moi, je trouve qu'elle est fantastique, la Pizzolatto. Sur cet enregistrement, je dirais que Zeda confond un peu vitesse et précipitation. Mais que dans le parti pris qu'il a de cette pulsation extrêmement vive et toujours très contrôlée, enfin oui. Vraiment c'est très, enfin on sent qu'il connaît cette partition parfaitement, on découvre quand même des choses, c'est-à-dire que moi il y a des choses que je n'avais jamais entendues dans cette interprétation, il y a des choses sur lesquelles effectivement des effets d'accélération, des pulsations etc. qui sont nouvelles en tout cas pour moi, je ne suis pas forcément un très grand spécialiste. Ce que je déplore un tout petit peu, c'est ce que dit Mehdi, ça manque un peu de chic tout ça, c'est-à-dire que pour le dire autrement, on tire ça un peu trop vers le bouffon. Et je trouve qu'on ne s'amuse pas assez. Mais d'ailleurs, je suis assez frappé par le fait que les enregistrements ou les représentations d'opéra bouffe de Rossini, manifestement, ne suscitent aucun plaisir ou aucun amusement. Je corrigerai un peu cette caricature après, mais suscite peu souvent de l'amusement chez les gens qui l'interprètent. Typiquement à Paris, les chanteurs avaient l'air de mourir d'ennui.
Bah, Siragusa s'était mis à faire du jonglage de ballon, je n'y étais pas, mais c'était dans le Barbier à Bastille, il s'était mis à jongler.
Dans le Barbier, c'est un peu différent, ça a l'air
car ça lui valait un supplément de cachet.
Mais moi, je trouve que c'est toujours un peu dommage quand... au fond, on essaye de faire des effets, des accélérations fulgurantes, des effets vocaux plus ou moins réussis. Et finalement, ce n'est pas amusant, quoi. Enfin, en gros, moi, ce que je reproche à cet enregistrement, c'est quand même qu'il est un tout petit peu sérieux. Et je trouve que ce que Mehdi appelle justement le chic, c'est aussi une manière de prendre un peu de distance par rapport à cette œuvre et de montrer qu'on n'est pas complètement dupe du comique un peu convenu qui la domine. Voilà, je trouve que
il y a peut-être aussi un peu que Zeda, dans sa vénération de Rossini, sombre dans une forme de dogmatisme amusé peut-être. qui ouais. n'amuse peut-être, peut-être pas les autres.
Mais c'est vrai que chez Abbado, par exemple, moi ce que j'aime beaucoup dans les Rossini d'Abbado, bon, on va dire qu'ils sont un peu datés, etc., etc., c'est que dans la direction d'Abbado, il y a quand même une espèce d'élégance qui laisse aussi à penser que, voilà, enfin, il y a quand même dans les opéras bouffes de Rossini, on peut pas ne pas entendre une forme de recherche de l'agrément, enfin voilà.
La difficulté chez Rossini, c'est qu'il faut s'amuser, mais qu'il faut s'amuser tous ensemble. Il faut pas des individualités qui s'amusent à faire leur numéro, mais arriver à trouver une énergie qui fait que l'orchestre et l'ensemble des chanteurs va trouver. Et c'est pour ça que je parle d'énergie, de la pulsation, que c'est ça le plus important. Moi, ce que j'ai entendu de plus convaincant dans l'italienne à ce niveau-là, ça reste la version Scimone pour ça, parce qu'il y a une vraie liberté dans la pulsation avec des chanteurs. C'est cette liberté qu'on ne retrouve pas là.
dans un enregistrement, comme tu disais, Jean-Philippe, qui est live. Donc on pourrait se dire, il y a peut-être une volonté quand même, ça pourrait jouer un peu plus.
Il devrait y avoir plus de vie, parce que c'est un live.
Je pense qu'il y a une vraie difficulté à rendre dans un enregistrement qu'on écoute dans telle ou telle condition, ce que le spectateur aura vécu dans la salle. C'est une difficulté vraiment intrinsèque à tous les opéras, mais je pense que pour le bouffe, dans ce répertoire-là, c'est peut-être encore plus difficile que dans un tas d'autres répertoires. Peut-être. Et il est à parier que les spectateurs sont sortis de la soirée extrêmement contents et enthousiastes.
C'est vrai que vocalement, c'est pas non plus.
C'est ce qu'on peut offrir aujourd'hui en 2000.
Je pense qu'il y a aussi une Elvira particulièrement mauvaise. Et ça, c'est dommage parce qu'elle n'a pas un rôle très important, mais elle tient toute la voix du dessus dans les ensembles. Ça plombe beaucoup les ensembles d'avoir cette voix métallique. Et voilà.
Merci beaucoup. On va passer au second Rossini de cette soirée. Pas des moindres. Il s'agit du Stabat Mater de Rossini, toujours, dirigé par Antonio Papano, qu'on peut voir sur Forum Opéra en ce moment avec une pomme sur la tête.
Très bonne interview.
Laquelle est traversée par une baguette, car il va diriger Guillaume Tell.
Il l'a dirigé.
Il l'a ? Très bien. Alors, c'est avec amour qu'Antonio Papano parle de sa partition, concluant son interview par cette affirmation. Rossini est un compositeur beaucoup plus profond que ce que l'on a pu dire. C'est finalement sa facilité à composer qui l'a condamné à la réputation réductrice qu'on lui connaît. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Papano a convoqué à ses côtés ce que la planète lyrique compte de plus marquant pour imprimer au disque sa vision du Stabat Mater. Ananette Trepko, Joyce Di Donato, Laurence Brownlee encore et Ildebrando d'Arcangelo seront-ils suffisamment d'arguments pour rendre Rossini à sa dignité ? On écoute Qui est Homo ? C'était Qui est homo, issu du Stabat Mater de Rossini, dirigé par Antonio Papano. On a pu entendre les mélopées langoureuses émanant des gosiers splendides d'Anané Trebko et de Joyce Di Donato. Alors, Sylvain, toi qui es l'expert mondial des gosiers langoureux, qu'as-tu pensé de ces petites notes perlées d'Anané Trebko?
La pauvre, je l'aime tellement que j'aurais du mal à la critiquer, mais
il n'y a aucun lieu de la critiquer.
C'est la conception générale qui m'a un tout petit peu gêné, parce que au fond, ce Stabat Mater de Rossini est une œuvre qui, vous savez, a été écrite à plusieurs moments, est une sorte de rhapsodie à la fin rossinienne. Et au fond, c'est une œuvre qui hésite un peu entre plusieurs genres. Est-ce qu'on tire vraiment vers la messe un peu théâtrale? Est-ce qu'on est plutôt dans une épure censément religieuse? Et voilà. Et tout ça, moi, je pense que Papano l'a tiré un peu comme il avait fait pour le Requiem de Verdi, vers quelque chose de très fervent, de très italien, d'assez théâtral. Et au fond, moi, je ne suis pas certain que ce soit la manière de voir le Stabat Mater qui me convainc le plus. Alors, autant je trouve que tout ça a énormément de vertus et que c'est un parti pris que Papano tient merveilleusement, autant ce qui atteste peut-être que ça n'est pas la nature profonde de l'œuvre, c'est qu'une chanteuse comme Netrebko, qui justement, elle, laisse aller beaucoup son lyrisme naturel et son épanchement affectif, je trouve que ça ne convient pas. Enfin, en fait, elle en fait trop à la demande du chef. Et que finalement ça déséquilibre l'œuvre, là où par exemple Joyce Di Donato, elle, a une approche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus, à mon avis, stylistiquement orthodoxe, si je puis
janséniste.
Dire. Janséniste. Peut-être janséniste. Et en tout cas, sa rigueur qui peut déplaire, c'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, mais au fond, elle est désengagée, elle, alors que les autres le sont davantage, sa rigueur me plaît davantage. Donc si vous voulez, moi, je crois que c'est une question de conception, c'est que soit on aime bien la version, une vision un peu austère de cette œuvre, soit on préfère une vision plus riante et plus théâtrale, en tout cas. Je crois que Papano est de ce côté-là. Donc je trouve que ça a des qualités, mais que ça n'est pas exactement la manière dont... Voilà. Si, il a dirigé le Guillaume Tell il n'y a pas très longtemps, il l'avait déjà fait il y a 2 ans. Cette façon qu'il a de tirer des œuvres qui sont un peu difficiles, parce que Guillaume Tell, c'est quand même pas facile, d'en tirer une sève absolument prodigieuse, c'est remarquable. Je ne sais pas si son Guillaume Tell va pas sortir d'ailleurs au disque.
Ça a été enregistré. Oui.
Voilà,
c'est tout
enregistré.
À fait prévu.
Et ce qu'il avait fait pour le Requiem de Verdi, c'était pareil. Il a cette espèce de force incroyable pour monter en puissance une œuvre. Est-ce que le Stabat de Rossini est fait pour ça? Je n'en suis pas sûr.
Alors, Thomas, toi qui as régulièrement chanté aux côtés d'Anan et Trepko.
Oui, bon, je ne vais pas en dire du mal non plus. Moi, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé pas aidé par Papano, justement, dans l'Inflammatus. j'étais surpris par cet orchestre plat et sans flamme, justement. Alors qu'elle, je l'ai trouvé très elle m'a emporté complètement. Et je me suis dit, pourquoi le chef ne la suit pas là-dedans? J'avais des souvenirs d'autres enregistrements de cet air beaucoup plus enthousiasmants que ça. Et je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Sylvain, par rapport à Josie Donato, parce que je suis d'accord qu'elle se détache, notamment dans le duo avec Anan et Trepko. C'est clair qu'elle prend le duo en main, quoi, et que les Trepko ne fait plus que suivre, finalement. Quoi. C'est elle qui dirige le duo. Mais parce qu'elle est habitée, justement, parce qu'elle est dans, elle a une conscience du texte et de l'histoire qui se raconte dans ce Stabat Mater, qui a une histoire vraiment poignante. C'est même pas une question de ferveur ou de religion, que simplement une question de passion et de douleur.
Mais vocalement, elle est au cordeau.
Elle est plus rigoureuse, mais elle a cette présence au texte et cette direction, cette construction dans ce duo et dans son air aussi, qui fait qu'au final, moi, je la trouve beaucoup plus habitée, beaucoup plus engagée que les autres. Et notamment, alors, Brownlee, là aussi, je trouve très beau vocalement, mais dans cet air qui, quand même, moi, m'emporte aussi à chaque fois, il ne s'est pas passé grand-chose. Quoi. Musicalement, cette mélodie ne va nulle part, alors qu'elle est... Mais c'est un torrent, quoi.
Ce que tu dis est très juste. Je trouve que ça se veut très extérieur, mais ça n'est pas assez tenu, ça n'est pas assez concentré. Enfin, et ça se sent dans les grands morceaux de bravoure que tu dis. Enfin,
Jean-Philippe.
Bon, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce Stabat Mater.
Merci Jean-Philippe.
Parce que, comme l'a dit justement Maître Faure, on trouve le génie de Rossini dans cette œuvre. Il y a une pièce a cappella, il y a un grand air d'orchestre, il y a un air plus intimiste, il y a un air d'opéra tout simple qui est l'air du ténor. Et il rend ça avec, tu as dit, ferveur, italianité, théâtralité. D'ailleurs, quand on met un disque ou quand on met ses écouteurs, je dois dire que ferveur, italianité, théâtralité, ça me va assez bien. Et bon, moi, j'ai trouvé que Papano, donc, lui donnait un sens, qu'il emmenait tout le monde. La distribution, le point faible, bon, les points forts, on l'a dit. J'ai beaucoup aimé D'Arcangelo, qui au début du Propeccatis fait des choses qui sont effectivement contestables.
Disons que vocalement, il ressemble de plus en plus à Gottlob Frick.
Oui, c'est vraiment ça.
Enfin, moi, je trouve que c'est le grand méchant loup. Là aussi, il y a aussi un sens du mot. Il chante pas du tout ça de manière linéaire.
Je trouve qu'il essaye désespérément d'imiter Samuel Remy et que finalement, il finit par ressembler à Grindel.
Non, vous blaguez. Et alors, le vrai point faible, je trouve, à part la fin de l'Inflammatus qui m'a enflammé, je trouve que le matériau vocal de Netrebko est quand même là aussi en état un peu préoccupant.
Enfin, pas du tout.
Mais si, ça bouge, il y a un vibrato qui devient préoccupant. Je trouve que dans les quatre, c'est un peu inquiétant. Je dis pas que c'est pas audible, je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que son contrut est peut-être le plus beau de toute la discographie du Stabat Mater, et que c'est une artiste, c'est une musicienne, etc. On lui enlève pas toutes les qualités.
C'est vrai que j'entends ce que tu dis sur les problèmes vocaux, mais en même temps, j'entends qu'elle arrive à le masquer.
Oui. Alors, bien sûr.
Et moi, à partir du moment où elle arrive à ne pas tomber dans ces pièges-là, ça m'est égal. Je veux dire, ok, elle a peut-être des soucis vocaux, mais là, dans ce disque-là, on entend qu'elle compense et qu'elle corrige ces défauts-là. Donc, du coup, moi, je les relève plus. Quoi.
Mais alors, après, au total, quand on compare dans la discographie du Stabat Mater, je dois dire que cette version-là va tout en haut. Il n'y a pas un sommet, une version incontestable, à supposer qu'il y en ait. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? La version de Giulini a des points forts, extrêmement forts dans la direction, dans la conception du chef, mais vocalement, il y a quand même des gros, gros points faibles.
La version Carayenne, peut-être, avec Simeone Ato.
Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté.
Ça n'existe pas.
Qui est très, très belle. Merci.
Moi, j'aime beaucoup cette version. C'est Ivan... Kertész.
Van Rebroff.
Donc bref, aujourd'hui...
Pour moi, ce qui condamne la version Papano, c'est qu'il n'y a pas de photo de Anan et Trepko.
Et de ses jambes.
Jambes nues.
Oui, c'est ça.
Mais dis-toi qui, justement, est jambes nues.
moi, je rejoindrai assez Sylvain en disant que je suis plus sensible à une version telle que celle dont nous venons de parler, qui est celle de Giulini.
Et de Babao,
qui a
De qui?
Babao.
Ah oui, tout à fait.
Il Babao, Raymond dit.
Mais vraiment pour la direction et tous les passages a cappella qui atteignent une espèce de ferveur nue qui, moi, me bouleverse. Là, on a un Papano qui n'élude rien. C'est-à-dire qu'il n'élude pas la pompe.
Et oui, mais c'est bon. La pompe.
Oui, c'est bon. La pompe.
Surtout dans Qui est Homo.
Dans Qui est Homo.
Marseille, il y a la pompe à lui.
Non, Papano n'élude rien. Et bon, c'est vrai que cette distribution est un peu composite. Finalement, moi, ce qui me satisfait le plus, sans m'enthousiasmer réellement, c'est Brownlee. Parce que je trouve que Di Donato, finalement, a mieux à dire ailleurs que là.
Moi, j'admire la manière dont les critiques saisissent un disque, parfois, en se demandant ce qu'ils vont parvenir à trouver de négatif. Enfin, bon, c'est une manière de voir l'art. Nous passons au disque suivant, Beyun Metta, Ombra Cara, chez Harmonia Mundi. Gravé en récital sous la direction de René Jacob, c'est un honneur rare. C'est un peu comme si un jeune député d'une obscure circonscription faisait corriger ses discours par le président de la République, ou comme si une Miss France obtenait de Madame de Fontenay qu'elle inaugurât des foires au boudin à sa place. Cet honneur rare, Beyun Metta ne le galvaude pas. À mille lieues des sempiternels récitals de contre-ténors dont on arrose le marché, cet Ombra Cara vaut avant tout pour sa structure. Par son artisanalité, par le résultat des efforts musicologiques de René Jacobs, par la stupéfiante sobriété du chanteur et par la grâce presque irréelle de la guest star d'une plage, Rosemary Joshua. On écoute un extrait de L'Agrippina de Handel, Voi che udite il mio lamento.
It is
C'était Voi che udite il mio lamento, donc un extrait de l'Agrippina de Handel, que René Jacobs avait d'ailleurs dirigé il y a une petite dizaine d'années à la Monnaie, au Théâtre des Champs-Élysées. Mais dis-tu, y étais justement ?
J'y étais, j'étais aussi l'année dernière à Berlin pour une nouvelle production de cette Agrippine, où justement Bejun Mehta interprétait le rôle d'Ottone. Moi, c'est un disque qui me fascine complètement, parce qu'il y a là un souffle rhétorique qui manque souvent au récital de contre-ténor où on est dans l'exploit pur, mais il y a aussi un souffle physique. C'est-à-dire que Bejun Mehta est quand même, si j'ose dire, parmi les contre-ténors, celui qui a la plus grosse. Moi, j'ai entendu à Vienne le programme de ce récital.
Est-ce qu'il est lu de la pompe ?
J'ai entendu le programme
et qui est au mot ?
De ce récital à Vienne. Et Bejun Mehta a une manière de payer comptant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment...
en liquide.
Il y a vraiment dans cette voix une énergie, une assise dans le grave qui passe vraiment l'orchestre, qui vraiment passe dans la salle. C'est pas le plus beau timbre, il y en a de plus beaux, mais c'est un peu l'antidote à tous ces contre-ténors un peu séraphiques, ambigus. Là, c'est vraiment un mec qui chante, mais qui chante aussi... Mais
avec une voix de PD quand même.
Mais qui chante aussi avec un immense raffinement. Il y a une évolution dynamique dans tous les airs. Il y a un parcours musical, poétique, vraiment soutenu. Il y a un propos, il y a un vrai artiste. Vraiment, on n'est pas dans cet exploit d'aller toucher la note la plus haute, parce que c'est pas là que Bejun Mehta est le meilleur. Là où il est le meilleur, c'est vraiment dans une forme d'introspection vocale. Il y a des choses spectaculaires sur ce disque. Il y a des vocalises qui n'en finissent pas, il y a tout ça. Mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est l'artiste. Et pour une des premières fois, enfin peut-être chez les contre-ténors modernes, on a quelqu'un dont on se dit, mais quel artiste et quelle force de persuasion, quelle variété dans l'expression. Ça me rappelle le disque de Max-Emmanuel Senchik qui était sorti l'année dernière, qui était aussi un récital Handel, avec aussi des choses un peu plus rares que ce qu'on trouve habituellement, qui était vocalement époustouflant, mais qui n'avait pas cette force de conviction, de déclamation, de caractérisation. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a René Jacobs qui fait des merveilles à la tête du Freiburger, qui a des couleurs absolument insensées. Il y a une palette qui n'en finit pas de miroiter. Et puis voilà, il y a cette idée géniale qui est celle de René Jacobs aussi, d'inviter Rosemary Joshua pour chanter ce duo de Sozal, mais qui est une petite merveille.
Ou même voilà. une très grande merveille. Thomas.
Oui, alors bon, moi ce disque, quand je l'ai vu, j'ai eu un peu le même sentiment qu'à New York, à Armide, quand j'ai découvert qu'il y avait 6 ténors rossiniens dans l'opéra, je me suis dit, ça va être un peu long. Tout un disque de Handel et d'air de contre-ténor, j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, c'est peut-être le disque qui m'a le plus emballé de la sélection aujourd'hui. Effectivement, c'est un discours qui n'est jamais répétitif, qui est toujours construit, toujours en progression. Une voix qui n'est pas démonstrative, dans le sens où c'est pas la voix la plus riche, la plus impressionnante en termes d'ambitus, ou même en termes d'agilité. C'est-à-dire les agilités qu'il y a sont faites avec beaucoup de liberté et beaucoup de finesse. Et c'est ça qui fait qu'elle n'est jamais agressive ou jamais saoulante, comme ça peut l'être souvent dans Handel ou même dans Rossini, mais toujours captivant. Et ça m'a vraiment, vraiment attrapé. Et c'est vrai que ce duo final est absolument, absolument bouleversant.
Jean-Philippe.
J'ai eu le même sentiment que Thomas en commençant l'écoute. Je dois dire qu'il y a eu des chutes d'attention de mon côté, mais je souscris. D'abord, c'est pas vraiment mon répertoire, on va dire. Moi, j'ai été un peu gêné parfois par le timbre, en particulier dans le haut médium ou l'aigu. Ça part quand même dans le nez. C'est parfois pas très joli. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail parce que pour le reste, il faut trouver quelque chose à dire. Car sinon, pour le reste, je suis tout à fait d'accord. C'est un musicien. C'est autrement caractérisé que certains contre-ténors qu'on citera pas, comme Philippe Jarouski. donc, je donne. je donne 10 Jarouski contre un disque comme ça, ça c'est clair. Voilà, donc ça, et puis le duo final est effectivement magnifique. Bon, donc j'ai écouté ce disque avec plaisir.
Merci Jean-Philippe, est-ce que tu vas l'offrir à ta grand-mère?
J'ai plus de grand-mère, Camille.
On coupera au montage alors. Et on jouera un Stabat Mater. Sylvain, toi oui. Qui as encore une grand-mère, et même deux?
Non, je n'ai plus de grand-mère. Je suis moi-même devenu grand-mère récemment. Mais écoute, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer ce disque puisque les iTunes et autres ont refusé de fonctionner sur mon ordinateur. Puis j'ai fini cet après-midi par y accéder. Alors, il paraît qu'en fait, cette Bejoun Mehta est arrivée au champ très tard. Et assez tardivement après. Et je me réjouis qu'il se soit reconverti dans le champ parce que l'entendre diriger de la grosse soupe italienne au terme de Caracalla avait fini par me lasser. Et je n'avais pas tellement apprécié ses performances avec les trois ténors. Je trouvais qu'il en faisait beaucoup trop. Et là, je trouve que finalement, c'est assez délicat. Et on ne s'attendait pas à cette reconversion profonde. Hein, je souhaite qu'il ne revienne pas à la direction d'orchestre et qu'il continue son aventure.
Je comprends là que les difficultés techniques auront été plus fortes et que tu n'auras pas écouté ce disque.
Tu peux le déduire, tout à fait. Mais je l'offrirai à
ta grand-mère.
À ma grand-mère.
Eh ben merde alors. C'est gentil. Ah bien, nous allons passer à la chronique de gauche.
Oui,
de
absolument.
Sylvain Faure, qui est venu avec un bandana du Tché.
Alors, moi, je ne t'ai demandé aucun caveat, tu as remarqué.
Est-ce que tu permets?
Mais tout est permis.
Alors, mesdames, messieurs, nous lançons un jeu concours aujourd'hui. Vous pouvez gagner 2 exemplaires par tirage au sort du disque de José Van Damme, 30 ans à la monnaie.
Il y en a encore?
Il y en a encore. C'est très simple. J'ai envoyé avant l'émission à Sylvain Faure une liste de 5 mots, noms, locutions qu'il a dû incorporer dans sa critique. Vous enverrez donc un email à l'adresse indiquée sur le site ou dans lequel vous identifierez ces 5 mots. Nous tirerons au sort et les gagnants se verront récompensés. Sylvain,
tout à fait.
C'est à toi.
Alors, en fait, moi, à la différence de Jean-Philippe, je n'ai pas besoin de préliminaire expliquant que pour moi, tout ça est factice, puisque c'est d'habitude la chronique réactionnaire qui relève chez moi de l'exercice de style. Écrire une chronique de gauche, c'est en revanche, cher Jean-Philippe, aussi naturel pour moi que crier « Vive Lionel Jospin » dans une manifestation de soutien à Liliane Bettencourt. Et donc, il n'y aura dans le propos que je m'apprête à tenir aucune palinodie, car tout cela, pour moi, est évident, spontané, je dirais viscéral et culturel. Et mon propos sera simple, je parlerai de la... Et vous comprendrez tout de suite de quel côté de la barrière je me situe. Je vais parler des 30 ans de la ROP. Et je vais pousser un cri. Un cri de gauche, et c'est pourquoi je me permettrai de délaisser, si vous me le permettez un instant, le parler gourmet, légèrement apprêté, qu'on me reproche trop souvent, et adopter l'idiome un peu plus franc et massif du populaire, car tel est mon bon plaisir. Et donc l'autre, oui, ma cravate me sert le kiki, ça devient vraiment pénible. Alors, l'autre soir, donc, c'est du vécu, hein, les camarades et moi, on était en train de remplir notre grille de tiercé au balto, à Bastoche.
Retire le doigt de ton narine.
Et alors, après la réunion de Terra Nova. Et alors, j'étais avec Dédé le cheminot.
Terra Nova qui est le think tank de gauche.
Tout à fait, ouais, absolument. On avait bien débattu sur l'avenir du pays. J'étais avec Dédé le cheminot. Avec Mustapha du Conseil d'État, que Jean-Philippe connaît bien, et avec Gino, le sociologue de l'EHESS, que tu connais bien aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit là, de l'autre côté de la rue, des rupins.
Retire les doigts de ta
narine. On voit des rupins et ils rentrent dans l'opéra et c'était un soir de relâche. Et là, je dis, je vais rédiger une tribune pour Mediapart afin de protester sur le déni des droits syndicaux à l'Opéra de Paris.
Ouais.
D'accord.
Dur.
Et Gino me fait remarquer que tout ça, le type qui marche en premier de la procession porte une pancarte. Et je dis, tiens, c'est génial, une manif, on va y aller, puis on récupérera sur nos RTT.
Oui.
Hein, c'est normal.
C'est pas très de gauche, ça, comme...
Pourquoi? Récupérer les RTT, c'est bien. Et en fait, sur la pancarte, il y avait écrit « AROP ». Et alors, Mustapha, qui est au Conseil d'État, me dit, c'est pas enregistré comme organisation syndicale, ça. Et donc... on va ester devant la troisième section du Conseil d'État, devant la commission des dénominations, pour faire démanteler ce groupe réactionnaire. Et puis en fait, facit indignatio stultitiam. Et Mustapha me dit, en fait, non, c'est les types qui, la robe, c'est les gens qui payent leur place à l'opéra, à la différence des journalistes et d'un certain nombre de vieux qui sont amenés par Descartes. Et en plus, ils donnent du pognon à l'opéra, en plus du billet, du prix du billet, ce qui est quand même un moyen de créer des privilèges qu'on avait abolis il y a 200 ans. Et donc, nous, on était très énervés avec les camarades de la section Balto. Et alors, en fait, on se dit, mais c'est pas normal que ces gens-là, et ça, c'est profond et c'est vrai, et je le pense vraiment, c'est pas normal que ces gens-là fassent des soirées privées dans un endroit qui est l'endroit du peuple. Parce que l'opéra, il est populaire. Et donc, il y a Gino, il dit, on va en faire, si c'est ça, bah, quand Ségolène, elle sera passée en 2012, on va fermer l'opéra pour en faire une école de redressement disciplinaire pour les intellectuels dissidents. Et ça servait vraiment à rien de faire 89, 48, 36, 81. C'est pas un numéro de téléphone. C'est les grandes dates de la lutte des classes, bordel. Ouais. Alors, 89, 48, 36, 80, je répète. Et c'était pas
c'est
la
pas
peine.
C'est pas surtaxé comme numéro.
C'était pas la peine d'élire Ségolène en 2012. Enfin, Gino est un peu un visionnaire dans son genre pour en arriver là. Et donc, nous, on voudrait faire part de notre émotion. Et puis aussi, comme on est de gauche, il n'y a jamais d'émotion sans motion. Donc, on va faire une motion. Et là, on se dit, pourquoi est-ce que les types qui lèvent 3 millions d'euros pour l'opéra par an font une soirée privée? Et nous autres, les contribuables, on lève 100 millions d'euros par an et on n'a pas de soirée privée à l'opéra.
C'est exact.
C'est absolument dégueulasse.
C'est rigoureusement exact.
On se croirait revenu au temps de Joachim von Ribbentrop et des tickets de rationnement. Et donc, on lance un préavis avec Jean-Philippe. Hein, Jean-Philippe, on lance un préavis avec le soutien des syndicats et des partis de gauche. On espère que les Verts seront avec nous dès qu'ils auront mis fin à leur suicide collectif. Et donc, ça se passera à Bastoche, mais le 14 juillet prochain. Et je voudrais signaler une chose, c'est que Nathalie Dessay, qui était prévue pour cette soirée de privilégiés dégueulasses, a renoncé à venir. Et donc, elle chantera pour nous le 14 juillet.
La poitrine dénudée.
La poitrine, oui, peut-être, avec Michel Sénéchal, dit Mimi Lassénèche de la section Jules Gad. Et on paiera en saucisse frite avec de la mayo. C'est surtout la mayo qui coûte cher, en fait. Et donc, moi, j'ai un message pour les gens de la ROP, là, qui se croient chez eux, dans la maison du peuple. C'est que vous n'aurez ni l'Alsace, ni la Nathalie. Et je dis vive la sociale, la révolution est en marche.
Bravo Sylvain, merci pour oui. Cette édition de Chronique de Gauche qui était censément de gauche.
Elle était censément de gauche. Et je dois dire que je fais ainsi honneur à une pensée qui chez moi est profonde et enracinée dans des convictions réelles.
Oui, tout à fait.
Maintenant on va changer de chemise, tu es tout en sueur.
Merci, alors nous allons passer au dernier disque de ce qu'avec Anem. Il s'agit de Marie-Nicole Lemieux, Ne me refuse pas, ce que Mehdi a l'habitude de dire à Jean-Philippe Tillet quand ils se douchent ensemble après le rugby. Alors, en dépit des efforts que Naïve met en œuvre pour transformer Marie-Nicole Lemieux en sosie officielle de Céline Dion, les curieux se précipiteront vers la cover du disque. C'est avant tout l'intégrité de l'artiste qui ici frappe notre oreille. Oui, le parcours discographique de la contralto québécoise l'a confinée jusqu'ici dans des rôles de pleureuse baroque, de généraux clavecinisés ou de délicate chambriste à l'annulaire levé. C'est oublier quelle terrienne Marie-Nicole sait être. Ici, c'est en femme fatale qu'on la retrouve. Ici, elle rappelle que son flux de testostérone n'irrigue pas seulement ses cordes vocales, mais aussi son tempérament. Disque à la gloire de la puissance féminine, disque à la gloire d'un talent unique et rafraîchissant, on écoute un extrait de Charles VI de Saint-Saëns. Thank you.
tout comprimé. Leurs armes ont fait fuir un peuple désarmé, dont le sang coulait sans défense. Prisonnier, recouvrez la raison que pour mieux sentir ta souffrance. Non, non, ton fils va venir, Dieu te garde à sauveur. Tout est prêt. Contre toi, leur fureur sera vaine. Tant que d'un saint amour pour abattre mon cœur, tant que reste de sang pour
destinée et la tienne.
C'était sous leur sceptre, humble fille des champs. Alors, Thomas, toi qui es une c'est humble fille des champs, et qui a par ailleurs souvent chanté avec Marie-Nicole Mieux. Je te présente mes excuses, Sylvain, mais d'habitude, nous avons à cette table Laurence Dale qui commence chacune de ses interventions par « Ah oui, j'ai d'ailleurs moi-même très souvent travaillé avec... » Bon.
Bah non, je n'ai jamais chanté avec Marie-Nicole Mieux, mais je l'ai rencontrée plusieurs fois. Bon, c'est un disque qui m'a beaucoup intéressé et je trouve qu'il pose une question sur l'identité vocale de Marie-Nicole Lemieux qui est assez intéressante parce que finalement, elle se présente comme une contralto. En même temps, elle a été une contralto baroque, Handel, Vivaldi, tout ça qu'elle a très merveilleusement chanté. Et elle n'est pas encore tout à fait le contralto malérien de Maureen Forrester ou ce genre de voix-là. Et là, elle s'attaque au répertoire plutôt mezzo-dramatique de l'opéra français du 19e. Et ça pose des petites questions quand on l'entend dans ce répertoire-là. Il y a des morceaux qui n'ont aucun problème. Notamment, moi, le morceau qui m'a le plus emballé de ce disque, qui est l'air de Dalila. Je trouve qu'elle chante... à la manière d'une mélodie orchestrée de chaussons, et c'est absolument magnifique. Vraiment, j'ai été très ému par ce morceau-là. Et à côté de ça, je trouve qu'il y a un problème pour moi dans les airs de véhémence. Je dirais, toutes ces grandes personnalités, ces personnages tragiques qu'elle campe là, de Hérodiade à Didon, et en passant par Clytemnestre, où dans le ton de véhémence, la voix tout d'un coup s'agite avec un vibrato qui semble pas contrôlé. Alors je sais pas s'il est contrôlé ou pas, mais moi en tout cas qui m'a fait perdre une hauteur de ton et une grandeur des personnages qui m'a manqué du coup. Et le contraste était frappant en écoutant le disque de Bejoun Mehta juste derrière, avec évidemment un répertoire qui n'a rien à voir et une voix qui n'a rien à voir, mais où la sobriété de la diction et de la ligne lui donnait la grandeur et l'héroïsme des personnages qu'il campait, et où là j'ai trouvé que cette agitation du timbre m'a gêné.
Mais Marie-Nicole Lemieux n'est pas quelqu'un de très sobre, pour reprendre ton adjectif. Elle est tellement expressive, elle brûle les planches, en tout cas dans les différents rôles où je l'ai vu. Donc
elle tombe dans la fosse.
Elle tombe dans la fosse et elle chante après le bras plâtré.
Non, mais c'est pas une question de sobriété.
Un peu quand même.
C'est vraiment une façon dans la conduction du son. J'entends ce que.
À vous entendre, on a l'impression que vous souhaiteriez qu'Hérodiade, qui est quand même une grosse poissonnière, hein, sans vouloir être méchant avec elle, soit chantée avec la retenue d'une symphonie de malheur.
Justement, non. Je parle pas de retenue, je parle de hauteur, de dramatisme. Mm-hmm. Que justement, cette Hérodiade ne m'a pas fait peur. Alors que Hérodiade, normalement, me fait peur par cette véhémence qu'elle doit avoir, qui est une véhémence tragique.
Peut-être aussi parce que là, la partition de Massenet n'est pas très effrayante.
On n'est pas dans les sommets dramatiques de Strauss.
Donc.
Moi, c'est un air que j'aime beaucoup, cette grande scène d'Hérodiade, parce qu'on sent le personnage manipulatrice, la manipulatrice derrière, qui alterne la violence avec la séduction. Et je n'ai pas senti ça, moi, dans cette scène. Bon, mais c'est peut-être personnel. Hein.
Bon, moi, au final, j'ai quand même trouvé que c'était un beau disque. Parce que, d'abord, ça m'intéressait de l'entendre dans toute une série de choses que je n'avais jamais entendu chanter. C'est quand même assez nouveau. Et alors que je partage complètement ce que tu dis sur les interrogations qu'on peut avoir sur son positionnement vocal. Elle est peut-être à une période un peu charnière, mais ce n'est pas vraiment un contralto au sens où on l'entend d'habitude. Voilà, donc moi, j'ai trouvé que son manque de sobriété n'était pas très gênant dans les airs dont parlait Camille et dans Hérodiade en particulier. On est quand même assez saisi dès le début. Alors, je ne sais pas si c'est saisi par la peur. J'ai rarement peur en entendant un air d'opéra, mais je trouvais que c'était vraiment plein de fougue et d'enthousiasme. Un peu monotone dans l'expression et complètement d'accord sur les airs plus élégiaques qu'elle chante vraiment. Donc c'est un disque très 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 recommandable et vraiment que
en plus il y a des raretés de répertoire.
Oui, absolument. Donc qu'on doit écouter, faire écouter. C'est un magnifique disque.
Sylvain.
J'entends les réserves de Thomas et à vrai dire, je ne me suis pas posé la question, mais c'est possible qu'il en soit comme ça, techniquement parlant. Moi, ce qui m'a fait vraiment passer un peu par-dessus tout ça, c'est que je trouvais que c'était du français vraiment merveilleusement bien chanté. Et que sa diction et sa façon de son inflexion du français, c'est quelque chose quand même qu'on entend assez rarement. Et qu'elle avait, elle a une, quand même une poésie de la langue française qui lui est propre, qui n'est pas juste un effet de diction. Hein. Je veux dire, quand on dit diction, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas juste la prononciation, c'est la façon dont elle nuance, dont elle module, etc., qui m'a complètement emballé, en fait. Et c'est vrai qu'elle a tendance, Jean-Philippe parle d'une certaine monotonie, elle a tendance à choisir peut-être... Pour, comme dit Thomas, par rapport à cette petite difficulté technique, elle a tendance à choisir une certaine forme d'alanguissement dans son interprétation et qui moi, me ravit beaucoup parce qu'en fait, je trouve que c'est dans les airs qu'elle a choisis, il y a quand même souvent des choses un peu élégiaques ou alors qu'elle tire vers l'élégiaque. Même Didon, en fait, est tiré vers ça. Et du coup, la hauteur de ton que tu ne trouves pas, Thomas, peut-être d'un point de vue technique, moi, je la retrouve du point de vue interprétatif. C'est-à-dire, il y a cette volonté quand même de prendre un peu son temps, de s'installer dans le texte, de s'installer dans le personnage, qui traduit une forme de hauteur, alors qui n'est pas une hauteur techniquement parlant, mais qui est une forme de sérénité ou une forme de vision un peu surplombante. J'ai trouvé que l'orchestre répondait extrêmement bien à tout ça aussi. Et au total... Je me demande dans quel récital récemment français on a entendu ces airs, ce répertoire français du 19e siècle, aussi bien chanté, aussi bien interprété, plus que chanté. La voix, moi je veux dire, elle n'a pas des sortilèges infinis, hein, j'en conviens tout à fait, mais je trouve que c'est merveilleusement interprété. Ça me fait quand même un peu penser dans la façon qu'elle a de chanter ça. Alors on va dire que c'est récurrent chez moi, mais enfin ça me fait quand même un peu penser à Alania. Il y a cette espèce de phrasé français qui est sans chichi, qui est sans apprêt superflu et qui est incroyablement efficace dans la suggestion, dans le dans la façon de faire surgir le sens. Voilà.
Mais juste pour préciser un peu ce que je disais, je ne parle pas de réserve technique, hein, c'est très très bien chanté, la voix est magnifique, et je pense justement que cette réserve que j'ai ressentie vient du fait qu'elle n'est pas encore, et peut-être que c'est de sa part d'ailleurs, qu'elle n'assume pas encore complètement l'identité vocale entre elle et ce répertoire-là.
Ah oui,
et que du coup, elle l'interprète un peu comme, comme quelqu'un qui lui rend visite. Quoi. Elle fait un petit détour par ce répertoire-là. Oui. Et du coup, vocalement, elle n'est pas complètement assise dedans, complètement installée dedans. Et je pense que c'est simplement ça qui m'a manqué pour avoir vraiment cette idée d'un personnage qui maîtrise complètement sa parole
et ses
émotions.
Mais dis-toi qu'il maîtrise complètement ta parole.
Moi, j'ai été frappé en entendant Marie-Nicole Lemieux dans une partie de ce programme, en concert au Théâtre des Champs-Élysées. Par la maturation de la voix. C'est-à-dire que c'est une voix qui a pu... et c'est intéressant que Thomas parle de cette agitation du timbre, parce que c'est une voix qui, au départ, a pu paraître, surtout vis-à-vis de ce registre de contralto, un peu courte de souffle. Et elle a gagné, notamment depuis son accouchement, parce qu'elle a vraiment retravaillé les bases, elle a gagné quelque chose d'une élasticité. Et en concert, c'était tout à fait...
Alors, Mehdi qui tombe dans des remarques obstétriques.
C'était tout à fait prégnant en concert, c'est-à-dire que je crois que maintenant elle est installée dans ce répertoire et je pense qu'elle s'est fait à l'idée qu'elle allait pouvoir l'interpréter vraiment et même à la scène, ce qui n'était peut-être pas le cas quand elle a enregistré le disque, parce que c'est arrivé un peu comme une surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose ça dès maintenant. Moi, ce qui me frappe, et je rejoins Sylvain, c'est qu'il parlait d'effet de diction, c'est qu'il n'y a pas d'effet de diction ici. Il n'y a aucune sifflante suraccentuée, il n'y a pas des voyelles qui sont trop claires, trop nasalisées, francisées, il y a une espèce de naturel. Alors on sent qu'elle est francophone, mais sans qu'elle appuie là-dessus, comme certains quand ils chantent en français et qui chantent le français vraiment du bout des lèvres en disant voilà, moi je représente le bien chanté français comme ça, bien devant.
Pourquoi prends-tu la voix de Michel Fedechel quand
et ça c'est vrai que c'est assez fascinant. Et puis je trouve qu'il y a une noblesse dans cette voix et chez cet interprète, il y a vraiment comme ça quelque chose d'assez grand.
Merci Mehdi pour ce commentaire, un disque que nous recommandons. Alors on regrettera évidemment de ne plus voir le dos de Marie-Nicole Lemieux. Hein. Cette fois, on la voit de face, peinturlurée et sans doute photoshopée. Bon. Nous allons passer à notre double tour de table tout terrain des objets culturels que nous avons aimés et que nous avons détestés. On commence à tout seigneur, tout honneur parce que nous avons aimé. Alors Mehdi, qu'as-tu aimé ? À part ta récente visite à Bruxelles, où nous t'avons fait visiter des endroits très glauques.
Bah écoutez, moi je vais vous paraître très consensuel, mais je suis allé voir Potiche au cinéma. Et ça m'a réjoui. Ça m'a vraiment réjoui. J'ai été...
Tu es un peu la Catherine Deneuve de ce podcast.
Exactement. J'ai été réjoui surtout par cette reconstitution minutieuse des années 70. J'avais un peu l'impression de regarder... Bon, je suis né après les années 70.
Oui,
de regarder des photos de famille avec ses coiffures, ses décorations d'intérieur... Voilà, j'étais assez sensible aussi à l'esprit boulevardier. Voilà, je trouve que c'est un joyeux divertissement.
Alors, Jean-Philippe, qui a aussi beaucoup aimé Potiche d'ailleurs, mais dans la version de Jacqueline Maillan.
Oui, c'est ça, j'allais vous parler de Potiche, mais dans la deuxième partie du tour de table. non, j'ai beaucoup aimé quelque chose que vous n'avez pas encore vu, qui s'appelle les émotifs anonymes, qui sort bientôt, mais qui n'est pas encore sorti, avec Benoît Poulvord.
C'est le film de Danny Boone ?
Non, c'est le film de Jean-Pierre Améris, à ne pas confondre avec Amneris.
Tu es décidément dans une verve humoristique.
Il y a la délicieuse Isabelle Carré qui joue le rôle d'une émotive anonyme.
C'était d'ailleurs ton statut Facebook.
Absolument, parce qu'Isabelle Carré est une actrice absolument merveilleuse et une personne pleine de grâce.
C'est elle qui jouait Tati Daniel ?
Non, pas du tout. Isabelle Carré a des fossettes absolument craquantes et une actrice lumineuse. Et voilà, donc le film est très réjouissant. Que tous les émotifs, anonymes ou pas, aillent le voir. Que toutes les personnes qui ne sont pas émotives aillent le voir aussi, parce que c'est un très joli film fait avec beaucoup de simplicité et de classe. Ce qui manque beaucoup à Potiche, j'y reviendrai.
Alors Thomas, mis à part le fait que tu aies croisé Lionel Jospin dans la rue.
Je ne l'ai pas croisé dans la rue, je l'ai croisé à l'issue d'un spectacle au Bouffe du Nord.
Il est venu dedans ?
Oui.
Il est venu te féliciter.
Kafka's Monkey. Non. Moi, j'ai assisté à la générale de Rêve d'automne, la pièce de Yon Fossey, mise en scène par Patrice Chéreau au Théâtre de la Ville. Et je recommande à tout le monde d'essayer de trouver des places pour ce spectacle. C'est assez déroutant, mais très, très émouvant. Et ça, c'est une pièce qui vous poursuit pendant quelques jours après... après l'avoir vu, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pascal Grégory et Bulogier notamment.
C'est formidable.
Et c'est magnifique.
Merci. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à consulter la correspondance de Jacques Rivière et de Paul Claudel, dans laquelle nous trouvons cette phrase qui est de Paul Claudel. « Si Dieu nous fait l'honneur de nous demander quelques sacrifices, il n'y a pas d'autre chose à faire que de les consentir avec joie. » Et en voyant ça, j'ai évidemment pensé à Sylvain, dont dans la vie tout entière s'inscrit dans cette
On ne saurait mieux dire.
Tout à fait.
On ne saurait mieux dire.
Sylvain.
Eh bien, moi, je vous ai apporté un livre qui est magnifique, qui s'appelle « La Muse parodique », et dans le livre on trouve un texte même que je ne connaissais pas du tout, mais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Les déliquescences d'adorer Floupette ». Et c'est vraiment, ce livre, il faut absolument l'acheter, c'est aux éditions José Corti, c'est assez connu en fait, hein, mais j'arrive un peu tard.
Les pages sont coupées.
« La Muse parodique ». Et là, les déliquescences d'adorer Floupette commencent par la vie d'adorer Floupette. Je vous en lis juste trois lignes, si tu le permets, si nous en avons encore le temps.
Largement.
Mon vieil ami et camarade de classe, adoré Floupette, poète décadent, est venu l'autre jour me faire une proposition singulière. On dirait Camille et moi. Il s'agissait d'écrire une préface. Toi, tu es l'heureux, tu es adoré Floupette. Il s'agissait d'écrire une préface à son étonnant recueil de vers, Les déliquescences. Tout d'abord, je me suis récrié comme un beau diable. Mais adoré, tu n'y penses pas. Moi, simple pharmacien de deuxième classe, rue des Canettes, un potard, comme on dit dans le monde, servir d'introducteur à un homme comme toi. On en rira longtemps au panier fleuri. Malheureusement, adoré a tenu bon. Comme de juste, il méprise profondément le public. Un ramassis de crétins, se plaît-il à dire dans l'intimité. Pourtant, son dédain ne va pas sans un peu de pitié. Au fond, il est bon garçon. Il sent bien qu'il faut faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu, comme nous, la chance d'être initiés au grand arcane.
C'est formidable.
Oui, c'est merveilleux. Et après, il y a les vers d'adoré Floupette, qui sont absolument merveilleux. Par exemple, celui-là, devine, pour être conspué, c'est le titre. Devinez au coin des brocatelles, j'ai perçu tes contours subtils, presque. Je songeais alors à quelques fresques remembrées avec des blancheurs d'ailes, etc., etc. C'est absolument.
C'est d'Amédée Floupette.
C'est adoré.
Adoré Floupette.
Mais non pas Amédée.
Qui est le frère d'Amédée Florissoir.
Tout à fait.
Bon, merci.
Je recommande ce livre.
Alors nous tournons vers Jean-Philippe Thiellet, qui n'a pas aimé Potiche, je crois.
Non, j'ai pas aimé Potiche parce que j'ai jamais ça m'interroge beaucoup moi-même, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à comprendre si les acteurs jouaient mal parce qu'on leur avait demandé de mal jouer ou s'ils jouaient mal parce qu'ils jouaient mal.
Il faut pas être homosexuel pour apprécier ce film.
Je sais pas, moi il faut poser la question. Hein. Je sais pas.
Il faut éluder la pompe, Jean-Philippe.
Il faut éluder la pompe à l'huile. Ouais. Et donc voilà. Puis les allusions sont vraiment lourdingues et je m'étonne qu'un être aussi subtil que mon voisin de gauche ait pu tomber dans le panneau.
Et ton voisin d'en face aussi.
Ah non, il n'a rien dit, mon voisin d'en face.
Bah, je suis aussi en face de toi.
Et mais tu m'avais pas dit que tu aimais Potiche.
Mais je l'ai dit, adoré. Oui, fort, j'ai adoré Potiche, j'adore Catherine Deneuve.
C'est passé de l'humour pelche.
Oui, tout à fait. Alors Thomas, qu'as-tu détesté?
Rien.
À part la plus enchantée au Bouffe du Nord.
Non, qui te permet de détester la critique de Forum Opéra sur la flûte enchantée des Bouffes du Nord.
Alors justement, c'est intéressant. En quoi était-elle injuste, cette critique?
Non, elle n'était pas injuste.
Donc elle a donné... Elle
disait que Thomas Dolier était un bon chanteur.
Chacun a le droit de ressentir ce spectacle comme il le souhaite.
Mais toi-même, tu as eu une très bonne critique dans cette critique.
Moi-même, j'ai été épargné.
C'est parce que Sylvain a insisté.
Mais non, simplement, il y a un argument qui est donné dans ce papier qui est sur la fidélité à Mozart, voilà, qui est une tarte à la crème qu'on se balance à chaque fois qu'on fait une mise en scène un peu osée sur un opéra de Mozart.
Qui renvoie directement à la chronique de gauche de Jean-Philippe.
Oui, dire ça d'une mise en scène de Peter Brook, ça ne veut rien dire. parce que son PLEA c'était superbe. Et,
mais c'est parce qu'ils ont coupé la musique, mais
oui, mais PLEA c'était coupé aussi très largement.
C'était un grand argument au moment de la mise en scène de la Forêt d'Elsbach, justement de dire on a remplacé les dialogues de la Flûte enchantée par des textes d'un poète d'une autre époque.
Catalan, voilà. De gauche. Lu par Pascal
l'honnêteté intellectuelle de Peter Brook est d'avoir changé le titre et d'avoir prévenu de l'adaptation, que ce n'était pas une mise en scène de la flûte enchantée, mais
c'est
c'était
Marc Lavoine
une flûte enchantée.
Alors Mehdi, voilà. Mehdi, qu'as-tu détesté ?
J'ai pas détesté, mais j'ai succombé aux sirènes des petits mouchoirs, qui est un phénomène de société actuellement dans notre pays. Je suis allé voir ce film de Guillaume Canet. Et j'en ai vu les très grosses ficelles.
Oh mon Dieu, je crois que nous avons ce soir un Mehdi qui a l'inconscient à ciel ouvert.
Lacan sort de ce corps.
Oui, non, c'est... Alors c'est une bonne bande de copains qui se retrouvent dans une maison.
Tu vas nous épargner le synopsis des petits mouchoirs. Merci. Donc voilà, c'est très mauvais, très mauvais. Merci, Mehdi. Moi-même, je déteste les auréoles sous les bras de Jean-Philippe Tinet, car cela me dégoûte.
Si tu m'avais amené un verre d'eau.
Mais j'aime beaucoup ces boutons de manchette Parme.
Ils sont pas Parme.
Non, mais la dernière fois, il
est bigleux à tous égards.
Voilà, tout à fait. Sylvain.
J'ai droit à quelque chose de plus ou moins... Enfin, à vrai dire, au stade où on en est, c'est vraiment plus de la musique. C'est Matisse der Mahler de Hindemith à l'Opéra Bastille. Je veux dire que je ne peux pas être soupçonné de germanophobie, tant il est vrai que j'ai appelé mon chien Helmut. Mais alors, je crois que la germanophilie la plus enracinée prend avec Matisse der Mahler un coup dans l'aile, mais de première ordre. C'est une abomination totale. Musicalement, c'est sans style, sans rien, c'est pâteux. Vocalement, je pense qu'on se sera rarement ingénié à réunir un casting avec des voix aussi systématiquement laides. Un peu comme un réalisateur s'ingéniait à ne recruter que des femmes qui, dont le tour de poitrine dépasse 250 C.
C'était Féline.
Et au fond, une mise en scène d'Olivier Py qui ne fonctionne pas. Et ça dure 4 heures. Et je dois dire que c'est un moment où on se dit, au bout de à peu près 25 minutes, on se dit, mais quand la botte allemande quittera-t-elle le sol français ? Mais on sort de là et on n'est pas en 1942 et on en est très heureux.
Spectacle par ailleurs extrêmement bien reçu, notamment dans Forum Opéra, aussi sur le forum de Forum Opéra et dans différents organes de presse qui ont loué ce spectacle.
Tout à fait.
Nous allons nous quitter, non sans peine. Merci d'avoir écouté ce 17e numéro de KV Canet. Mais pardon, si l'approche des fêtes s'est laissée entendre. Je remercie notre ingénieur du son, Francis Malek, mais aussi le producteur exécutif de l'émission, Monsieur Thibaut Folletti. Je remercie pour sa présence Thomas Delier, qu'on retrouvera d'ailleurs pendant tout le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'à 2017 au Bouffe du Nord dans une flûte enchantée, car comme on l'a entendu, Peter Brook a eu l'honnêteté intellectuelle de changer la flûte enchantée par une
flûte enchantée. C'est bas.
Sylvain, nous te retrouvons dans une semaine pour ton interview exclusive de Gabriel Baquier.
Qui est en cours.
Tout à fait. Oui.
En cours de montage.
Jean-Philippe Thielet, ne remets donc pas ta veste sur ses auréoles, tu vas avoir de l'irritation sous le bras. Mehdi, à bientôt et au revoir à tous. Ah, pardon, j'oubliais une chronique et une rubrique. Nous allons terminer les KV Canem à partir d'aujourd'hui par l'horreur du mois. Alors, l'horreur du mois sera un extrait musical présenté par un de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Mehdi qui vient très brièvement nous présenter son horreur du mois.
Alors, je ne pouvais pas ne pas choisir Peter Schreier pour l'horreur du mois, puisque c'est la mascotte de cette émission. Et j'ai choisi un enregistrement historique, parce que c'est le premier enregistrement intégral de Giulio Cesare de Handel. C'est un enregistrement qui regroupe une distribution très prestigieuse, notamment Dietrich Fischer-Dieskau dans le rôle titre, Tatiana Troyanos dans le rôle de Cléopâtre, Franz Krass dans le rôle de Tolomeo et Peter Schreier dans le rôle de Sesto, le fils de Cornelia et qui a l'air d'être son grand-père. Alors je vous invite à écouter cette chose qui en principe est accompagnée par le continuo, mais là on a eu la bonne idée de mettre tout le pupitre de violoncelle avec un magnifique clavecin qui n'est pas du tout d'époque et son inénarrable jeu lutté. Je vous laisse apprécier l'italianita flamboyante de Peter Schreier. Merci.
Spirit.